France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Mon invité ce matin collectionne depuis 50 ans disques d'or et autres succès de la chanson française, même si elle a toujours avec lui un parfum italien, puisqu'il s'agit de Frédéric François, alias Francesco Baracato. Il nous racontera son étonnante histoire d'un village de Sicile à une cité minière de Belgique avant d'atteindre les sommets du hit parade. Frédéric François chante l'amour toujours pour la plus grande joie d'un public qui ne l'a jamais lâché. On le retrouve dans quelques minutes, le temps de nous mettre en train avec cette célèbre marche. Vous avez 2 minutes 30 pour trouver son nom. Évidemment, tous les Américains la connaissent, les Français ils l'ont déjà entendu, mais ils ne savent pas forcément que ça s'appelle la marche du Washington Post, la plus célèbre peut-être des compositions de John Philip Sousa, compositeur donc états-unien de l'aube du XXe siècle. Et avant de retrouver Frédéric François, je voudrais pendant quelques minutes au moins rendre hommage à la grande artiste qui nous a quitté cette semaine. Je l'avais évoqué tout récemment, après la disparition d'Andrea Guyot, en disant heureusement, nous avons toujours cette aînée du chant français. S'il s'agit de Renée Doria, elle a 100 ans et elle est toujours parmi nous. Eh bien non, malheureusement, Renée Doria nous a quittés donc à l'âge de 100 ans, le 6 mars dernier. C'était une femme à la carrière assez extraordinaire, elle qui était née à Perpignan, qui avait fait ses débuts sous la baguette de Reynaldo Hahn. Et j'étais ravi de rencontrer encore quelqu'un qui avait travaillé avec Reynaldo Hahn à l'Opéra de Marseille avant de monter à l'Opéra Comique et d'enregistrer quelques disques extraordinaires, notamment par exemple Les Pêcheurs de Perles avec Alain Vanzo, dont on va entendre maintenant un extrait. Elle était venue deux fois dans cette émission, une première fois avec son mari Guy Dumazer, extraordinaire producteur et collectionneur de disques auquel on doit beaucoup de nos merveilleuses archives de 78 tours. Et puis, quelques années plus tard, elle était revenue en compagnie de Carlo Chiabrini, un artiste, un ténor, producteur de disques lui aussi, qui a beaucoup veillé sur René Doria dans toutes les dernières années de sa vie. C'était une femme en tout cas élégante, chaleureuse, que j'avais été très heureux de connaître. Et je vous propose donc de la retrouver quelques instants dans un de ces entretiens que j'avais eu avec elle. C'était l'entretien de juin 2012 où elle évoque justement les débuts de sa carrière. Comment est-ce que vous avez décidé de devenir chanteuse?
Oh, j'ai pas décidé, j'ai toujours pensé que je serais chanteuse.
Et vos parents vous ont encouragé?
Ah, j'ai eu là beaucoup de chance. Mes parents, tu veux chanter, bien tu chanteras. J'allais chez mon professeur de chant, ma mère m'accompagnait. J'ai travaillé beaucoup et puis voilà, j'ai eu la chance de connaître certaines personnes qui connaissaient Paul Bastide, le directeur de Marseille. L'opéra de Marseille. Et j'ai eu une audition et puis voilà.
À vos tout débuts, donc, en novembre 1942, René Doria, vous chantez L'enlèvement au sérail sous la direction de Reynaldo Hahn.
L'homme extraordinaire. Moi, j'adorais Reynaldo. Je connaissais ses bouquins par cœur.
Ah oui.
Ah oui, mais ça, j'étais très passionné par ça. Et
aimable avec une jeune artiste
Très, c'est un homme distingué, charmant. Très charmant. Vraiment, très aimable. Et il m'avait même dit, pour l'enlèvement au sérail, « Oh, vous pouvez faire le contrut sur le troisième air, qui est un air un peu périlleux. Mais vous pouvez faire le contrut à la fin. Madame Lili Lehmann le faisait. »
Ah, voilà.
C'était une référence terrible.
Alors là, c'est en 1942, donc vous êtes encore une jeune fille Sud. Oui. Vous avez une vingtaine d'années, vous n'avez guère quitté votre midi natal, René Doria, et puis vous montez à Paris, où vous allez faire vos débuts à l'Opéra Comique en 1944 dans l'Acmé. Alors comment ça s'est passé, cette montée à Paris?
Ah ben ça s'est très bien passé, j'ai été auditionnée par Murator.
Lucien Murator, qui était un chanteur qui avait pris la direction de l'Opéra Comique
ténor,
à la fin de la guerre.
Qui était très Sacha Guitry, très grandiloquent, mais très bien. Alors il m'a auditionné et puis il m'a engagé pour l'Acmé. Ouais. J'ai fait une représentation audition un dimanche après-midi, qui a été radiodiffusée d'ailleurs, dans l'Acmé.
Si ça marchait pas, on vous gardait pas.
On vous jetait. Bon, ben voilà, alors ça a très bien marché.
Leïla, Leïla, ne redoute plus rien. Me voici, je suis là, prêt à donner mes jours, mon sang, pour te.
Et voilà une petite idée de cette merveilleuse colorature qu'était donc René Doria, ici dans un enregistrement des Pêcheurs de Perles, qui est malheureusement juste une sélection, mais c'est pour moi la plus belle version sans doute de cet opéra de Bizet, avec Alain Vanzo qu'on a reconnu, René Doria, et bien sûr aussi Robert Massard sous la direction de Jésus Etcheverry. Et René Doria, vous pouvez donc retrouver sur la page d'Étonnez-moi Benoît les deux entretiens que j'ai eu avec elle en 2000 et en 2012. Et puis je vous recommande également l'émission d'hommage à René Doria que lui a consacré il y a quelques jours notre ami Lionel Esparzac. Vous retrouvez donc sur la page de l'émission Relax.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
France Musique.
Et sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité, superstar de la chanson française depuis, pensez, un demi-siècle. Et pourtant, il n'a pas du tout l'air d'un vieux monsieur. Il a connu des vrais triomphes dans les années 70, mais ce qui est formidable, c'est que ça s'est renouvelé dans les années 80, 90, 2000, et encore aujourd'hui, où il a toujours ce public extraordinairement fidèle. Il vient de sortir son nouveau disque, La Liberté d'Aimer. Je suis heureux de recevoir Frédéric François.
Jamais je n'ai aimé de cet amour-là. Jamais je n'ai eu autant confiance en moi. Jamais des yeux ne m'ont rendu aussi grand que lorsque tu me regardes tendrement. Jamais je n'ai pu rêver d'une autre vie plus belle que celle que tu m'offres quand tu souris. Jamais je ne me lasserai de ton corps, jamais assez de toi quand je m'endors. Jamais tant que mon cœur battra, jamais tant que tu me voudras, jamais jamais tu vois, je n'aurais fait ce chemin. Jamais sans toi, sans ta force et ton soutien. Au grand jamais, je n'oublie de remercier ma bonne étoile de t'avoir rencontré. Je ne lâcherai jamais ta main. Je ne suis plus jamais vraiment le même. Quand je pars loin de tes bras, de tes je t'aime. Tu sais, le temps ne paraît jamais trop long quand je le passe à t'écrire des chansons. Jamais tant que mon
cœur. Bonjour Frédéric François.
Bonjour Benoît, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Voilà, je suis très heureux d'être ici parmi vous et je pense qu'on va passer un bon moment.
Et nous aussi, on est très heureux de vous recevoir à France Musique. D'abord, quand on vous écoute chanter cette chanson, Frédéric François, on se dit, c'est merveilleux, la fidélité, ça existe. 50 ans avec la même femme, et vous lui rendez hommage encore dans une nouvelle chanson, dans votre nouveau disque.
Oui, je pense que voilà, ces chansons-là sont faites pour tout le monde, en fait. Nous sommes des êtres humains, nous avons un cœur qui bat, on a besoin de musique, ça fait partie de notre vie. Et ces chansons d'amour, elles vont se l'approprier, elles vont se reconnaître dans la chanson, et ça va devenir leur poitre père de leur vie. Et donc c'est très important, ça.
Mais là, en l'occurrence, c'est une femme en particulier à qui vous vous adressez. C'est votre femme.
Benoît, est-ce que je pourrais toutes les chansons les avoir vécues? Non, je peux pas. Mais voilà, je me mets à la place de tout le monde. Bien sûr, je peux la chanter pour ma femme.
D'ailleurs, mais... vous lui chantez toujours en premier vos chansons, vous avez dit un jour.
Oui, bien sûr, voilà. Elle est la première à écouter les chansons. Ouais. Mais là, vous dites, tiens, il a chanté pour sa femme, mais peut-être que mon voisin va dire, waouh, c'est ma chanson, je vais la chanter à ma femme. Voilà. Ou sa femme va dire, c'est ma chanson aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde se reconnaît dans la chanson.
En tout cas, Frédéric François, c'est vrai que votre vie, c'est une histoire de fidélité, aussi avec votre public depuis
oui,
50
sûr.
Ans, avec cette femme qui est la vôtre, et puis avec la musique. Alors cet album nouveau qui vient de sortir, vous me l'expliquiez à l'instant, vous l'avez fait chez vous, tout seul, en plein confinement.
Voilà, ça s'est passé comme ça. Le 7 mars, j'étais à Montpellier, et le 8 mars, je me suis confiné avant tout le monde avant qu'on nous dise vous devez vous confiner. Pourquoi ? Parce que je regardais la RAI, l'émission italienne en Italie, et je me dis waouh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Et donc j'ai vraiment pris peur. Et j'ai dit à mon technicien, voilà, le studio, on va l'amener dans mon sous-sol, le home studio.
En Belgique, près de Liège.
Voilà, près de Liège. Et si ça se complique, ben, je vais enregistrer ce nouveau disque dans mon sous-sol. Tu me dis comment on fait. Il me dit, voilà, il y a trois petits boutons à pousser. Tu choisis une piste, tu fais rec, tu fais play, tu vas au micro et tu chantes. Et je fais tout cet album dans le confinement et dans ces conditions-là.
Donc toutes les parties instrumentales, en fait, sont enregistrées, mais par des très bons musiciens. C'est une espèce de banque de sons que vous utilisez.
Oui, c'est-à-dire que voilà, nous sommes dans une époque très moderne.
Oui.
Et avant de commencer l'album, la première chose que j'ai dite à mon orchestrateur, j'ai dit voilà, ne fais pas les grands yeux, regarde ce que je vais te dire. Toutes nos batteries vont chanter, vont danser, les basses aussi, comme le font tous les Américains ou les DJ, et nous allons y mettre par-dessus des sons électrons. Nous allons acheter des banques de sons que les Américains emploient, et puis on va se les approprier. Mais attention, sans me dénaturer. Je sais jusque où je peux aller et où je ne peux pas aller. Et donc, ça a donné ce nouvel album.
Voilà, vous êtes fidèle à vous-même aussi, à l'artiste que vous êtes depuis le début.
Oui, oui.
Et vous n'en avez jamais cherché à être un autre que Frédéric François. Est-ce que je dirais chanteur de charme ? Non, ça ne vous plaît pas ?
Oui, vraiment. Alors là, chanteur de charme, Latin lover, serial lover.
Ça vous va ?
Qu'est-ce qu'on m'a dit encore ? L'apôtre de l'amour. Dans tous les pays, on me donne un surnom. Mais voilà, Latin lover, crooner, oui.
Oui.
Je ne suis pas le seul. Avant moi, il y a eu Sinatra.
Il y en a eu quelques-uns,
bien sûr. Il y en a eu plein.
Et d'ailleurs, tiens, vous partagez avec Sinatra quelques origines géographiques dont on va parler dans un instant.
Oui.
Je propose Frédéric François, comme on le fait toujours dans cette émission, qu'on remonte un peu votre histoire avec vos chansons et puis avec aussi peut-être quelques musiques qui évoqueront pour vous des souvenirs d'enfance.
D'accord.
Barca esta mia, Santa Lucia.
Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Frédéric François, j'avais la traduction en direct paroles italiennes. Chanson d'émerveillement hein, dans la baie de Naples, voilà, de quelqu'un qui parle à Sainte-Lucie.
Vraiment, un hommage à Sainte-Lucie par rapport à toute la beauté qu'on lui offre dans la vie. Voilà. C'est-à-dire le soleil, le Naples, tout ce qui est beau. Quoi.
Alors les amateurs de chant auront reconnu d'abord Caruso, le grand Caruso, et puis tout de suite après votre ami Roberto Alagna, Frédéric François.
Roberto, c'est mon grand ami. Je pense que c'est le plus grand ténor aujourd'hui au monde. Il a une voix
merveilleuse.
Merveilleuse.
Alors ça, c'est de la chanson napolitaine pure, mais vous avez grandi avec la chanson napolitaine, parce qu'en Sicile, on chante aussi des chansons napolitaines, et votre père en particulier.
Oui, tout simplement, parce qu'avant, c'était le royaume des deux Siciles. Oui. Naples et la Sicile, c'était le même royaume. Et toute la culture se faisait à Naples. Toutes ces chansons-là, la canzonetta, n'est que le début de ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc avant ça, il y avait les airs d'opéra, il y avait tout ça. Et puis, les Napolitains ont commencé à écrire des chansons, bien sûr, qu'ont chanté les ténors, mais que pouvaient chanter tous les chanteurs. Et comme ça, mon père en Sicile, loin de Naples, bien, ne chantait que des chansons.
Chansons napolitaines.
Ben, bien sûr.
Et un jour, donc, il est parti en Belgique, où il est devenu mineur, dans la région de Liège, où il vivait toujours. Oui. Et là, il a emporté avec lui, dans sa mémoire, dans son bagage, toutes ces chansons qui ont en fait enchanté votre enfance.
Voilà, c'est un papa mineur qui a émigré avec sa guitare. Moi, je l'ai connu, bien sûr, à l'âge de 4 ans et demi, parce qu'il devait travailler 3 ans et prouver que c'était un bon ouvrier.
Avant que vous puissiez le rejoindre.
Oui, avant que la famille ne puisse le rejoindre. Donc, je suis arrivé avec un convoi de la Croix-Rouge, avec ma mère. Encore, je me souviens... Toute ma vie, je me souviendrai de ce quai de gare où toutes les femmes arrivaient avec des enfants, où ça criait dans tous les sens, et mon père criait « Nina, Nina, Nina !» Et moi, je me disais « Waouh, qui c'est celui-là qui crie après ma mère ?» Et je me suis caché derrière sa jupe, et il m'a dit « Mais Francesco, c'est ton père, c'est ton père !» Et voilà qu'il m'a pris dans ses bras, voilà, c'est devenu mon idole. Et toute mon enfance, les dimanches, je n'ai entendu que des chansons napolitaines et des airs d'opéra. Voilà. Parce que lui, en Sicile, il apportait des sérénades. Et donc, voilà, il laissait la porte ouverte. Il disait, on ne sait jamais, si quelqu'un passe, il chantait très bien, on va m'entendre chanter. Et il chantait des chansons napolitaines. Donc, j'étais bercé par ça.
Il chantait quand même une chanson française. Vous m'avez dit, c'était Les Bancs Publics de Georges Brassens.
Oui, ça, je ne saurais jamais pourquoi. oui, parce qu'il l'entendait à l'époque à la radio. Il la chantait avec son accent à lui, quoi.
Voilà, c'est ça, Les Bancs Publics.
Oui, c'était comme les amoureux qui se baient. Les bancs publics et les bancs publics. Voilà. Et nous, on regardait, on était enfants. Ah bon ?
Et vous étiez
on ne connaissait même pas Brassens.
Vous étiez un des aînés de la famille, hein, famille nombreuse, le second. Et il vous a un peu poussé sur la voie de la musique.
Voilà, lui, dès mon jeune âge, il m'a dit voilà, je vais t'apprendre 3 accords et tu vas m'accompagner. Ré majeur, La, 7e et Sol majeur. Et donc, j'ai commencé à l'accompagner. Un jour, ma mère me dit, va le rechercher. J'ai préparé le dîner et mon père était au café du passage à niveau avec tous ses copains où il jouait aux cartes, où il buvait un verre. Il se retrouvait, c'est normal. Après une semaine d'être à la mine, à 1000 mètres de profondeur, c'est normal qu'il devait un peu se détendre et retrouver...
Ils étaient tous italiens, beaucoup italiens ?
Oui, tous des Siciliens.
Tous
oui,
des Siciliens.
Bien sûr. Et donc voilà, moi je rentre dans ce bistrot et quand il m'a vu, il a dit waouh, il a fait arrêter tout le monde parce que ça criait dans tous les sens, ça jouait. Il dit mon fils va vous chanter une chanson. Il m'a mis sur la table et moi, allez chante-nous en sole mio. Et a cappella, j'ai chanté au sole mio. Tout le monde m'a applaudi. C'était la première fois de ma vie que je recevais des applaudissements pour une chanson que j'avais interprétée. Et à partir de là,
ça
j'ai attrapé un virus qui ne m'a jamais plus quitté.
Et vous avez rendu hommage des années plus tard à votre père, d'ailleurs, dans un bel album de chansons italiennes,
justement. Oui, avec toutes les chansons napolitaines. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait en 96, après plein de tubes. Mais ça me faisait du bien de lui rendre hommage. Voilà. Vraiment, ça m'a fait un grand bien.
Mais vous aviez aussi un frère aîné et puis des copains qui s'intéressaient aussi un petit peu au rock, au yéyé, à la musique, à la mode. Et ça, ça a été peut-être l'autre chose qui vous a un peu stimulé dans vos années de jeune adolescent.
Hein, pourquoi ? Parce que voilà, on vivait en face du charbonnage. Lui, il pensait venir travailler 3 ans et faire fortune et retourner en Sicile. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Quand on travaille dans un charbonnage, d'accord, on découvre l'Amérique par rapport à ce qu'on a, mais on ne devient pas milliardaire. Donc tous les Siciliens qui habitaient dans la région région de Liège, les enfants avaient tous des groupes.
Et voilà,
Voilà, et lui a été démarché, il m'a fait rentrer dans un groupe qui s'appelait à l'époque Les Éperviers.
Les Éperviers. Tiens, je vais vous faire écouter un petit document que j'ai retrouvé, ça va vous amuser.
Oui.
Petite fille, viens vers moi. Car je ne puis vivre sans toi. Le soir, dans ma chambrette, je revois ton visage. Je revois
Voilà, vous connaissez Frédéric François, votre premier morceau enregistré. Vous aviez que 16 ans.
Voilà, j'avais 16 ans,
petite fille. Mais alors, comment est-ce qu'un gamin des mines, qui a des groupes comme ses copains, tout d'un coup, on arrive à enregistrer quand même un 45 tours?
Bah, je me suis toujours demandé comment mon père a fait pour m'inscrire dans un concours de chant à 100 km de chez nous. Et donc, c'était le Festival de Châtelet. Et voilà, j'étais avec les Tigres Sauvages à ce moment-là. Ah. Et donc, j'arrive devant un jury. Et dans le jury, il y avait un monsieur qui s'appelait Bob Jacquemin, qui a fait partie de l'orchestre Reventura.
Ah oui, pas mal.
Et qui dit, voilà, le premier prix est attribué à Francesco Baracato. Et
c'était
voilà.
Votre vrai nom, hein, on ne l'a pas dit. On viendra sur votre pseudonyme tout à l'heure, mais Francesco Baracato.
Voilà, et le disque, je me dis, allez, je vais couper mon nom en deux, Barra, François Barra. Et donc, j'enregistre ce premier disque. Le hic, mon père a dû acheter les 500 disques. Et donc là, ça posait un problème. Donc il a acheté ses 500 disques avec ses économies. Il a fait du porte-à-porte, il les a mis dans des jukebox, il les a envoyés en Sicile. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait mon tout premier disque.
Voilà, les débuts d'un itinéraire. Vous n'avez pas connu tout de suite le succès, mais enfin, ça a commencé
c'était
vite quand même.
C'était une petite carte de visite, voilà.
Et puis alors, vous aviez des influences à l'époque. Hein. Il y avait votre compatriote italo-belge, d'abord Salvatore Adamo, qui était déjà
sûr.
En pleine gloire. Vous l'admiriez beaucoup.
Bien sûr. Ben oui, quand on le voyait à la télévision, mon père disait, tu vois, un Sicilien qui a réussi. Oh, si nous, ça pouvait aussi nous arriver. Et on rêvait, en fait. Alors, on avait ce rêve. C'est ça qui nous portait très fort. C'est que... j'aime pas dire dans cette misère, parce qu'on vivait bien. C'était une famille heureuse. Ouais. Voilà, on vivait avec les moyens que nous avions. Mais on avait ce rêve, surtout mon père, que je devienne un jour chanteur. Mais on savait pas comment on allait y arriver. Et c'est arrivé.
Et vous êtes devenu copain, d'ailleurs, par la suite, avec Adamo également, hein?
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, après, quand le succès est arrivé, bien sûr, Salvatore faisait partie de notre vie, on s'est rencontrés souvent. Mais vous savez comment ça s'est passé, comment tout a commencé. C'est important de savoir. Un peu comme dans un film hollywoodien, une voiture décapotable rouge s'est arrêtée dans la cité où nous habitions et sortit un homme bien en chair, lui manquait juste le cigare. Il est venu frapper à la porte chez mes parents, a dit, voilà, j'ai entendu parler de votre fils... Hein, par monsieur Bob Jacquemin, donc le fameux disque qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il peut m'enregistrer une petite cassette? Parce que j'ai vraiment envie de le produire.
Constant de Fourny, c'était
Constant
ça
de Fourny.
C'était
et voilà
ce monsieur.
Que je commence à faire mon premier disque chez Barclay, Belgique. Hein,
oui, pas mal.
Chez Barclay, Belgique. Et voilà, on a vendu 1000 disques, et puis on a vendu 2000, on en a vendu 3000.
Vous aviez un autre modèle, si je ne me trompe pas, c'était Paul Naref, hein? Votre idole un peu à l'époque.
Oui, déjà en 66, quand vous
écoutez
les harmonies, j'avais un cahier où j'écrivais des chansons avec Marino Atria, le parolier. Ouais. Et voilà, quand j'allais au conservatoire, parce que j'ai fait plein d'études au conservatoire, j'avais un cartable avec des photos de Paul Naref, parce que je chantais aussi en voix de tête.
Voilà.
Et donc, ça me correspondait. Voilà. Quand il chantait Love Me, quand il chantait tout ce qu'il chantait, ma voix aiguë comme ça et fluide et correspondait vraiment à Michel Polnareff.
Et vous avez fait aussi des premières parties d'ailleurs qui vous ont aussi un petit peu appris le métier de chanteur.
J'ai fait la première partie de Polnareff justement. Quand j'ai gagné ce micro-sillon d'argent.
Oui.
Je me souviendrai toute ma vie, donc j'ai fait la première partie de Hallyday et puis il y avait aussi dans le prix une première partie de Polnareff. Et voilà, j'ai fait la première partie de Polnareff, waouh. Je me souviendrai toute ma vie, parce que Raymond Roynin, qui était l'organisateur, lui dit, voilà, tu passes par dealer, parce qu'on habitait là, près du charbonnage, est-ce que tu peux déposer ce jeune homme chez lui ? Et me voici, Benoît, dans une Rolls, à côté de Michel Polnareff. Non, c'est complètement c'est fou. Et il m'arrête en face du charbonnage. Et je ne sais plus ce que j'ai dit dans la voiture, j'ai peut-être dit oui, peut-être, monsieur, oui, non, je ne sais pas trop. Et de Sommeville conduisait la voiture.
Ah oui.
De Sommeville. Et le lendemain, j'ai dit à tous mes copains, vous savez pas quoi, Polnareff m'a raccompagné ici. Oui, d'accord, d'accord. Personne ne m'a cru, mais c'était la vérité.
Alors ce premier disque chez Barclay Belgique en 69, il va nous permettre d'entendre un peu l'évolution de votre style. Et je précise que la chanson s'intitule « Sylvie ».
Arrête de pleurer, Sylvie, j'ai le cœur déchiré.
Frédéric François, dans sa période encore un peu rhythm and blues.
Oui, c'est ça. On voit que les disques correspondent à des époques précises voilà. Par les instruments qu'on a employés.
Une chanson que vous avez chantée d'ailleurs à votre femme Monique dès que vous l'avez arrangée à l'époque déjà. Hein, voilà, c'est l'époque où vous êtes connue, vous êtes mariée à peu près.
Oui, c'est ça. Elle habitait le premier bloc de la cité où on habitait.
Voilà.
Et voilà, elle travaillait en usine. Chez elle, il y avait quand même 12 enfants. 12, plus que chez moi. Chez moi, il y en avait 8. Chez elle, 12. Et je la connaissais. Voilà, et ce jour-là, elle ne travaillait pas. Et elle part du premier bloc. Et elle arrive au troisième bloc où j'habitais. Moi, j'étais sur un petit muret. Et comme j'allais au conservatoire, je jouais de la guitare. Et je me répétais mes chansons. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais actuellement ? Je dis, voilà, je compose des chansons. J'espère qu'un jour, je ferai un disque. Je peux écouter une chanson ? Allez, je te fais écouter une chanson. Et elle m'a dit, waouh, mais c'est génial. Tu dois persévérer. Tu y arriveras. C'était la première femme dans ma vie qui m'encourageait. Jamais aucune femme ne m'avait approché. Moi, j'étais timide dans ma vie. Je sortais pas parce que j'avais pas les moyens. Voici une femme qui vient vers moi et qui m'encourage et tout. Et cette femme, cette fille, est devenue ma femme depuis 50 ans.
Voilà. Et vous aviez aussi une volonté, parce que justement, d'être artiste, puisque vous suiviez effectivement des cours au conservatoire, etc. Vous étiez quand même assez déterminé. Hein,
dans, oui, oui. Voilà. Je me suis dit, si tu veux chanter français, tu ne dois pas avoir d'accent ou
parce qu'en famille, vous parlez tous italien, évidemment.
Oui, parce que ma mère ne parlait que le sicilien, mon père aussi.
Ah oui.
Et donc, voilà, je ne devais pas avoir l'accent de Liège, en tout cas. Donc, j'ai pris des cours de phonétique, des cours de diction, des cours d'art dramatique, des cours de musique, des cours de violon, cours de chant d'ensemble, de chant. J'ai tout pris les cours possibles et inimaginables si, un jour, je devais réussir dans la chanson.
Voilà. Et alors, ce qui amusera aussi les auditeurs de France Musique, quand même, c'est de savoir l'origine du pseudonyme que vous avez pris peu après, à ce moment-là.
Là,
Frédéric François, c'est un hommage à
Frédéric François Chopin.
Chopin, voilà.
Oui, bien sûr. Vous voyez, quand cet impresario est arrivé chez moi en voiture décapotable, il m'a dit « Comment t'appelles-tu ? » Ben je dis, je m'appelle Francesco Baracato.
Ouais.
Et Baracato, c'est magnifique, parce que Baracat, ça veut dire que Dieu te garde et te protège. Ouais. Et dedans, il y a la baraka.
Il en
m'a
plus,
dit, non, ça ne se retiendra jamais. Et comme on était tourné vers la France, parce que la Wallonie est un pays français,
ouais.
À Liège, Ils disent qu'ils sont les vrais Français. Ils font le 14 juillet, ils fêtent le 14 juillet et le 21 juillet. Et donc, comme on était tous tournés vers la France, je me dis, voilà, ben, c'est la mode de deux prénoms. J'avais que 19 ans. Je vais garder François. Et si vous voulez, je prends un pseudonyme. Et inconsciemment, là, dans mes livres de musique et dans le conservatoire, m'est venu ce Frédéric François Chopin. Donc Frédéric François.
C'était les deux prénoms de Frédéric Chopin, effectivement.
Frédéric, oui, voilà. François. Frédéric François. Voilà, oui. Voilà. Et donc voilà. Et comme j'étais en romantique, et ça tombait bien.
Voilà. Alors vous l'avez dit, la Wallonie est tournée vers la France et le grand succès, il passait évidemment un peu aussi forcément par la France. Ça a pris encore 2 ans à peu près, un peu de galère,
oui,
de tentative.
Disques. Ils voulaient que je reprenne des disques hollandais, italiens et tout ça, jusqu'au jour où j'ai dit, écoutez, je veux encore bien faire un disque, mais cette fois-ci, vous me laissez faire. Et avec mon ami Rosario Marino Atria...
Qui écrivait vos paroles, à ce moment-là.
Oui.
Voilà,
c'est ça. Voilà. Mais il avait arrêté tout à un moment donné, qu'il faisait des reprises. J'ai dit, laissez-moi faire ce disque, on va vous faire une chanson à la napolitaine, avec les paroles d'amour qui déchirent et qui me ressemblent, comme chantait mon père. Et voilà que je sors un disque qui s'appelle « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime ». 13 semaines numéro 1 dans un hit parade qui s'appelait Formule J, c'était Formule Jeunesse. Il n'y avait que des disques anglais, j'étais le seul français. Et le nord de la France traversait la frontière pour acheter ce disque. Et dans la petite Wallonie, 100 000 disques se sont écoulés en très peu de temps. Voilà comment toute l'histoire
a commencé. Alors sachant que déjà dès ce moment-là, et pendant de longues années, donc vous avez cité votre parolier, mais les musiques, c'est toujours vous qui les écrivez, depuis le début. Hein.
Ah, toujours. J'ai toujours écrit... Voilà, toutes les chansons que nos auditeurs peuvent chanter, que ce soit « Laisse-moi vivre ma vie »,« Viens te perdre dans mes bras »,« Chicago »,« Je t'aime à l'italienne »,« Mon cœur te dit je t'aime » et jusqu'à aujourd'hui, j'écris toutes les musiques.
Et alors donc voilà, ce premier succès, ce premier vrai succès, et puis après, le premier vrai grand succès, vous pouvez nous en dire un mot, puis on va l'écouter, qui marque aussi votre conquête de la France, c'est « Je voudrais dormir près de toi ».
Et oui, voilà.
1972.
Je pourrais dire que chaque chanson a une histoire, moi, c'est incroyable. Ouais. Voilà, c'était la première fois que je prenais le train pour Paris. Et voilà, on a signé un disque chez Vogue France, parce que comme on avait cartonné en Belgique, la France me voulait absolument. Et comme le hasard n'existe pas, rentre à la direction de la promotion une dame. Et son premier jour de travail, sur son bureau, il y a mon disque. Je voudrais dormir près de toi. Et alors je me suis toujours dit, elle a dû dire, je vais montrer à cette maison de disques que je peux diriger toute la promotion et en faire un tube. Et voilà. Et elle s'est battue et Je voudrais dormir près de toi est devenu un tube énorme en France.
Énorme.
Et c'était pour la première fois, je passais sur toutes les ondes.
Alors, Europe 1, c'était très important à l'époque pour la chanson, évidemment.
Oui, Europe 1.
Guy Lux à la télévision.
Oui, on me matraquait. Oui, tous les Guy Lux et tout. D'ailleurs, ça se faisait dans la maison.
Voilà. Alors voilà, pour le plaisir, une petite compile de deux de ces grands tubes du début de votre gloire, oui. Frédéric François. En commençant justement par « Je voudrais dormir près de toi ».
Être là quand tu t'éveilles au premier rayon de soleil. Oh, je voudrais rester près de toi, m'enfuir loin dans tes draps pour ne pas rentrer chez moi. Je t'aime, passe encore dans mes cheveux tes deux mains qui me rendent si heureux. Je t'aime, ne me laisse pas partir loin de toi, je me sens un peu mourir. Je voudrais dormir près de toi pour te souhaiter le bonjour après une longue nuit d'amour. Oh, je voudrais rester près de toi et découvrir sur ton visage que tu n'es pas un mirage. Laisse-moi vivre ma vie. Non, je ne regrette
de rien. Je ne veux plus être celui qui ne connaît que des chagrins. Laisse-moi vivre ma vie. Si tu m'aimes encore un peu, ferme ta porte cette nuit. Ça vaut mieux pour tous les deux. Comme tu as changé, tu n'es plus la petite fille j'ai tant aimé, que je trouvais si gentil. Que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble. Pourtant au début tu me disais comment on se ressemble. Laisse-moi vivre ma vie et redevenir. Je ne connais plus personne.
Voilà, alors ça c'est le méga tube évidemment.
Oui, à l'époque.
Oui. François, enregistré fin 1972, juste après celui qu'on a entendu avant.
Hein. Oui, bon, parce qu'on faisait un disque tous les trois mois. En fait, à l'époque, c'était tous les trois mois.
Voilà, mais vous aviez trouvé, on peut dire, votre voix beaucoup plus mélodieuse qu'à l'époque où vous faisiez du rock, beaucoup plus chantante.
Oui, ça. En fait, j'ai trouvé mon style, mon ADN. C'était tout simple. Il suffisait de regarder mon père et de l'entendre chanter pour comprendre le style que je devais défendre.
Alors, il y a des trucs de guitare, de cordes, c'est assez sophistiqué, mais c'était surtout les effets de guitare dont vous étiez très content dans cette chanson. Hein.
Voilà, avec mon orchestre, donc je répétais mes nouvelles chansons, et le guitariste Pino Pace, qui était un fou de Jimi Hendrix, je lui dis voilà, là il faudrait un petit gimmick, après laisse-moi vivre ma vie. Il dit pas de problème, il prenait ses cordes un demi-ton plus bas et il les remontait vraiment.
Oui, ça donne le côté langoureux.
Oui, mais ça le faisait parce qu'il avait un grand Marshall, et donc après l'orchestrateur n'avait plus qu'à mettre des cordes par-dessus la chanson.
Et dans « Je voudrais dormir près de toi », juste avant, il y avait aussi une chose qui m'a frappé, c'est que, et qu'on retrouve souvent dans vos chansons, vous vous doublez vous-même à la tierce, hein, vous enregistrez votre voix.
J'ai toujours adoré ça.
Vous adorez ça.
Oui, tu vois, faire des tierces, doubler ma voix, je trouve que ça donne une harmonie et ça donne une personnalité. Et ça, voilà, c'est reconnaissable.
Alors, du jour au lendemain, vous êtes superstar, gros vendeur de disques, etc. Mmh. Ça a bouleversé votre vie, non? Finalement, vous êtes toujours resté fidèle en même temps à votre façon de vivre.
Non, je savais.
Vous n'êtes pas laissé griser par le showbiz, on a l'impression.
Je savais d'où je venais, dans quelle famille j'avais grandi, et même avec tous ces millions de disques vendus. Quand je faisais une émission de Guy Lux, par exemple, j'arrivais dans ce quartier où tout le monde m'applaudissait, il m'attendait. Et voilà, quand je rentrais à la maison, c'était Francesco Baracato qui rentrait. Et pas question que Frédéric François se prenne la tête ou tout ça. Voilà, mon père... Et donc, il était fier. Et puis, quand on a grandi dans un milieu comme les Corons et tout ça, comment changer quand vous avez une famille de 6 frères et 2 sœurs, une mère, un père comme ça, qui parle pas français, vous changez quoi? Vous changez rien du tout.
Alors, avant de venir à la suite de votre carrière, Frédéric François, je voulais revenir sur quelques artistes que vous aimez, vos goûts, vos admirations. Par exemple, vous aimez les crooners, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les grands crooners américains, les Dean Martin, les Sinatra, qui est d'ailleurs originaire, je crois, du même village que votre famille. Hein.
Oui, Sinatra ne l'a jamais dit pour des raisons qui lui sont personnelles, et il a bien raison. Mais voilà, toute la famille Sinatra, le père Antonio et le grand-père Francesco... Ouais. Sont nés via Margherita, qui est juste en face de l'église principale. Moi, je suis né 2 rues plus haut, via N, numéro 116. Et voilà, le père Antonio a été baptisé dans la même église que moi. Son grand-père a été marié et baptisé dans la même église que moi. Et dans ce village-là, nous sommes les deux seuls, les deux, en tout cas, à avoir une plaque commémorative sur la façade de la maison où nous sommes nés. Donc... lui et moi.
Et vous vous intéressez d'ailleurs beaucoup au lien entre la chanson américaine et la chanson italienne, parce qu'il y a toute une tradition là-bas aussi. C'est pas seulement en Belgique, mais il y a, voilà.
Mais voilà, on revient au royaume des deux Siciles, on revient aux airs d'opéra, on revient à une certaine musique classique, pas celle des opéras, mais quand même, parce que la canzonetta, il fallait de la voix et tout ça.
Mais on retrouve ça chez beaucoup d'Américains aussi.
Voilà, et voilà. Donc les Américains, on prend Dean Martin, bah, il reprenait les chansons napolitaines, ouais. Louis Prima reprenait les chansons aussi napolitaines. Il y a peut-être que Sinatra qui ne l'a pas fait,
parce que lui, il voulait qu'on oublie.
Lui, c'était du jazz, du jazz. Tout ce qui était populaire, comme Something Stupid ou Strangers in the Night, voilà, lui, il n'aimait pas trop ça. Mais alors que ça a marqué beaucoup. Il préférait tout ce qui était plus jazzy. Mais tous les Américains, même Presley, ouais, a repris.
Voilà.
It's now or never. Ouais. Sol e mio. Voilà. Oui, ce sont des chansons qui faisaient le tour du monde. Voilà. Tout simplement.
Du côté de la chanson française aussi, vous avez eu des amis et des admirations, des amours. Par exemple, Dalida, vous entendiez très bien avec Dalida. Hein.
Mais ouais. Dalida, elle fait partie un peu de ma ligne de vie, disons. Ouais, ouais. Hein. Donc voilà. Moi, je chantais au Sol e mio, à la maison. Le dimanche, mon père, bien sûr, le matin, chantait toutes des chansons napolitaines. Et après le déjeuner, on savait tous qu'il avait bu un petit verre, qu'il avait bu deux petits verres, qu'il avait bu trois petits verres, et qu'on pouvait lui demander tout ce qu'on voulait. Et donc, on lui avait demandé la télévision. Et donc, on traversait la rue, on allait devant un magasin d'électroménager, et nous disait, voilà les enfants, quelle télévision, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et nous, imaginez, tous les six, celle-là, celle-là, celle-là. Il forçait la porte. Bien sûr, la porte ne s'ouvrait pas. Nous étions le dimanche. Alors, il nous disait, soyez pas déçus, les enfants. On reviendra la semaine prochaine. Et on comprenait pas pourquoi. Après, on s'est rendu compte. Et donc, on y est allé en semaine pour acheter la télé. Il a ouvert cette porte et ce magasin était ouvert. Et donc, au lieu d'acheter la télé, il a acheté un meuble avec un tourne-disque. Et il a acheté le disque de Dalida, qui était sa chanson préférée. Et je revois encore dans ce petit salon.
C'était quelle chanson ?
Au Sol e mio.
Au Sol e mio.
Et je revois encore ce meuble avec ce disque Barclay qui tournait. Imaginez, mon père, ma mère, les frères, comme ça, on regardait ce disque tourner et on écoutait comme si c'était un ovni. C'était magnifique. Et donc Dalida a toujours fait partie de ma vie. La première fois que je suis arrivé à Paris, pour présenter un disque, c'est quand même Lucien Maurice qui m'a reçu dans les bureaux d'Europe 1. Et je n'oublierai jamais ce petit frisé avec ses yeux bleus qui me dit, il me tape sur l'épaule, nous deux, on va réussir.
Ouais.
Et donc, voilà, par après, Dalida me remet un disque d'or de mon cœur te dit je t'aime. Nous devions faire une tournée ensemble. Tu vois, donc elle est vraiment, pour moi, elle est un fil conducteur comme ça dans ma vie.
Ce qui m'a pas surpris, mais ce qui était apparemment plus éloigné de votre propre monde, de votre univers musical, Frédéric François, c'est aussi que vous aimez beaucoup, beaucoup Jacques Brel. C'est peut-être le côté belge, peut-être aussi, mais...
Non. En fait, je suis un amateur de musique, je suis musicien.
Ouais.
Et donc, je peux aimer Brassens, je peux aimer Brel, je peux aimer, je sais pas, Michael Jackson, je peux aimer Jennifer Lopez, je peux aimer Queen, par exemple.
Mais Brel, vous l'avez même repris et adapté. La chanson des vieux amants.
Oui, la chanson des vieux amants, c'est différent. C'est-à-dire que dans tous mes Olympiades, j'ai toujours rendu hommage à quelqu'un qui faisait partie ou qui avait un rapport avec ma vie. Et donc, j'ai rendu hommage à Brel, mais je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai voulu que Madly, la compagne de Brel, vienne à l'Olympia. Et je lui ai dit, voilà, je vais chanter la chanson de Brel, mais je vais la chanter à la napolitaine. Comme moi, j'en ai envie. Et donc, j'ai chanté... la chanson des vieux amants, et je peux vous dire que quand je finissais de la chanter, j'étais fatigué tellement le poids des mots était fort. L'émotion était tellement forte, et j'ai chanté, j'ai rendu hommage bien sûr à Brel, les vieux amants.
Et on va réécouter, tiens, pour le plaisir, l'original donc, de cette très très belle chanson.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordage, et plus le temps fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore.
Notre chère Belgique est à l'honneur ce matin avec donc évidemment Jacques Brel qu'on vient d'entendre, avec mon invité Frédéric François. On a évoqué Adamo, je crois que vous êtes à vous trois les trois plus grands vendeurs de disques de l'histoire de la Belgique.
Oui, voilà, c'est vrai.
Un point de plus qui vous rapproche, mais je le disais auparavant, oui, vous aimez beaucoup cette chanson, vous avez reprise à la napolitaine donc sur scène. Alors, donc on a évoqué ces immenses succès des années 70, du tout jeune Frédéric François, on en a écouté quelques-uns, on pourrait ajouter Chicago et encore d'autres tubes immenses. Mais problème de génération, c'est qu'à la fin des années 70, le style de la chanson, de charme, de variété, qui était à la mode, passe de mode, le disco arrive, etc. Et tout d'un coup, tout s'arrête.
Balayé. Voilà, je dis le mot avec un grand sourire, parce que c'est balayé. Jamais j'aurais imaginé que, quand on a vendu des millions de disques
comme ça,
que ça puisse s'arrêter. On était...
Non, on n'était pas conscient de, ouais, de ce phénomène, ni d'audimat, ni de major. Qui...
Changement de mode, changement de style. On arrive dans les années 80, quelque chose d'autre va commencer.
Voilà. Et donc, pour moi, ça m'a... J'ai dû passer par une spasmophilie, des angoisses.
Vous aviez assez d'argent pour être tranquille quelques années, quand même.
Oui et non. Parce que j'ai fait mes premiers disques où j'avais pas de royalties. Tellement, mon père voulait chanter à tout prix. On n'était pas des hommes d'affaires. D'accord. Et puis, quand j'ai vendu des millions de disques, j'ai reçu que des petits pourcentages. Et je comprenais pas pourquoi les autres avaient des châteaux et des Rolls et des trucs comme ça. Tu vois? Mais bon, peu importe. Mais c'est vrai qu'on a été balayés. Alors, encore une fois, Benoît, l'étoile.
Oui.
La petite étoile qui brille et qui dit, toi, tu dois rester. Et je me trouve un jour, je fais une émission au Luxembourg.
Oui.
Et je passe, bien sûr, je vais voir une vitrine. Ça faisait un an et demi, deux ans que tout le monde m'avait quitté, l'impresario. Plus personne ne voulait faire de disques.
Il y en a d'autres qui s'en sont jamais remis, hein, des chanteurs de votre génération.
Et j'arrive devant ce magasin, et une petite vendeuse sort de son comptoir, vient sur le trottoir et me dit « Waouh, j'adore tout ce que vous faites, vos chansons et tout. Vous devriez chanter ce disque-là. C'est un disque allemand. » Et moi, je me suis dit « Fredo, sois sympa, rentre. » Et achète-lui le disque. Elle est peut-être payée par le nombre de disques qu'elle vend. Et donc, j'écoute ce disque allemand.
De Andy Borg.
Adieu sa mort, je l'écoute. Ouais. Et ça me laisse, ni chaud ni froid. En sortant, j'ai dit, t'as fait une bonne action. Tu lui as acheté un disque. Et donc, j'arrive à la maison et j'écoute ce disque. Une fois, deux fois, mais 10 fois. Et à la 10e fois, je jure, Benoît, la chair de poule. Je me dis, mais quel tube énorme!
Mais c'était un titre en espagnol, mais les paroles?
Tout en allemand.
Tout en allemand. Donc mais vous compreniez, non?
Non.
Mais c'était beau.
J'avais quelques petites notions d'allemand, mais oui, c'était beau. Ouais. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi c'était intéressant et pourquoi ça avait marché. Et donc, je me bats, même avec Michel Jourdan, qui a écrit tous les tubes de tout le monde. Il voulait pas écrire sur cette chanson. Les éditeurs ne voulaient pas me donner l'autorisation. Et envers et contre tout, j'ai enregistré cette chanson. Michel Jourdan a fait les paroles. L'édition m'a donné l'autorisation. Je sors ce disque. 700 000 exemplaires vendus. Et une phrase qui me revient à l'esprit, je fais pas de la politique, mais du directeur qui me dit, on est en train de reconquérir la France comme la gauche. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et en fait, on tombait en même temps que les radios libres.
Et donc, c'est ça, c'était ça le changement.
Oui.
C'était en 82.
Oui, 82. Le public avait accès aux radios, on leur manquait. Et tout le monde a commencé.
Vous avez retrouvé votre public,
oui,
auquel on voulait donner d'autres musiques depuis 3 ans.
Oui, eux, ils me voulaient. Et donc, ils avaient accès aux radios. Et les radios ont commencé à matraquer cette chanson. Voilà. Et ça a fait un tube énorme. Voilà comment.
Et depuis, ça ne s'est plus jamais arrêté.
Donc, merci à cette petite fée qui vendait ce disque, qui m'a remis sur des rails pour toute ma vie. Donc, c'est magnifique.
Voilà, tiens, on va écouter pour le souvenir cet adieu sa mort et puis ensuite un des très très nombreux succès qui ont à nouveau suivi.
J'ai laissé passer ma chance et je t'ai
l'oubli viendra sûrement. que tu sais par cœur, car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie, quand résonne encore le bruit des verres de Chianti. Oh, je t'aime à l'italienne, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains, et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, 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 je t'aime à l'italienne, je t'aime à l'italienne. Notre histoire d'amour ressemble à la Dolce Vita, j'ai loué pour un soir tous les violons de la Scala. Il y a sur tes lèvres un peu de Fellini Roma, et moi dans mes rêves j'ai des envies de vendetta. Oh, 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 je t'aime à l'italienne, je t'aime à l'italienne.
Et je peux vous garantir, Frédéric François, que quand on l'a mise tout à l'heure en préparant l'émission, cette chanson un peu fort, là, tout le monde autour dans le studio s'est mis à reprendre le
chanter,
refrain.
Oui.
Comme le public d'ailleurs dans cet enregistrement à l'Olympia en 2000, le public entonne, reprend. Voilà, tout le monde la connaît.
Cette chanson est devenue, dans la mémoire collective, elle existe, elle a surpassé toutes les chansons et traversé le temps. À l'époque, quand elle est sortie...
C'était pas le plus grand succès, non?
Oui, c'était un succès, mais vous voyez, elle vient juste après Mon cœur te dit je t'aime. Ouais. Mon cœur te dit je t'aime, qui était le grand succès des années 84. Ouais. Ouais. Et donc, elle vient juste après. Ça n'a pas été le même succès que Mon cœur te dit je t'aime, mais avec le temps, elle a dépassé tout le monde. Voilà, on a essayé avec Jean-Michel Berriat de décrire un peu l'italien, la caricature de l'italien. Voilà. Moi, je me reconnais dans la chanson, je parle avec mes mains, je vois tout rouge.
Et c'est devenu associé, voilà, à l'image de Frédéric François. Et vous me disiez aussi, c'était intéressant, juste avant, dans Adios Amor, qu'a relancé votre succès, vous avez gardé le style de la chanson d'amour un peu à la Frédéric François, mais aussi finalement un stylet un peu de ce qui venait du disco. Et voilà, c'est la synthèse des deux qui a peut-être aussi expliqué le
Voilà, le début des années 80 et le redémarrage. Ouais. J'ai épousé l'air du temps en employant tous les instruments du disco au service de la chanson romantique. Par exemple, dans Adios Amor, ben, il n'y a pas de musicien. Ouais. Il y a des boîtes à rythme, il y a des synthétiseurs, des batteries, qui ont une certaine pêche, disons ça. Et donc, voilà, on était dans l'air du temps, à nouveau.
Alors, ce qui est amusant aussi sur les journaux de l'époque, c'est qu'on voit quand même le changement de look, hein. Et c'est plus le chanteur à cheveux longs des années 70, c'est le type gominé, en smoking, tout d'un coup, qui ressurgit au milieu des années 80.
Oui. Voilà. Oui, c'est normal. Mais on sortait de Love and Peace, donc voilà, vous avez 19 ans, vous avez 20 ans, vous avez des cheveux sur les épaules, vous avez des pattes d'éléphant dans la mode, qui était importante. Vous aviez des chaussures à semelles compensées, et puis des chemises à jabot. Dans les années 80,
c'était plus possible.
Tout ça, c'était plus possible, bien sûr.
C'est amusant aussi, oui, je disais, on entend ce public de l'Olympia qui chante, parce qu'il faut dire que vous avez une histoire insensée avec l'Olympia. Vous allez, si les conditions le permettent, au mois d'octobre, chanter à l'Olympia pour la 18e fois.
Oui. Oui, oui.
Mais ça ne veut pas dire 18 soirs, hein, ça veut dire 18 années où vous avez fait
l'Olympia. 18 années d'Olympia.
L'Olympia.
Voilà, quand j'ai commencé, Cocatrix avait dit on va prendre un week-end. Ils ont rempli un week-end, puis ils ont dit à mon manager nous allons prendre une semaine. Ils ont rempli une semaine et j'ai fait un mois d'Olympia complet. Et donc j'ai toujours fait un mois, 15 jours, 3 semaines. Et voilà, mais j'ai toujours fait l'Olympia. C'est un peu ma maison, quoi.
Mais alors je vais être un peu incisif là. Vous,
allez-y.
Vous voyez votre public qui revient d'une année sur l'autre, c'est le même public qui vieillit ou il se renouvelle?
Benoît, soyons sérieux. Allez, on va prendre une mesure avec le temps.
Oui.
Et on va voir dans les années 70, quand elles avaient 20 ans, quel âge elles ont aujourd'hui. Non, ce qui est formidable, mais non, le public s'est renouvelé, bien sûr. Moi, musicalement, en tant que musicien, j'ai épousé l'air du temps à chaque décennie ou à chaque album. J'ai voulu tout le temps changer pour avancer. Mais ce qu'il y a de formidable avec le public, et ça je les remercie de tout mon cœur, c'est que les chansons se sont transmises de génération en génération.
Voilà. De mère en fille.
Et si vous venez dans les spectacles, aujourd'hui, il y a 3 générations qui sont là, en famille, en train de chanter, ils connaissent tout le répertoire par cœur. Je peux me permettre de me tromper ou de m'oublier les paroles, elles chantent tout.
Vous acceptez quand même l'idée que votre public est plutôt féminin?
Au départ, il était très féminin.
Ouais.
Mais aujourd'hui, j'accepte l'idée qu'il n'est pas que féminin. Il est féminin et masculin. Oui, bien sûr.
Bon. Un mot encore, vous l'avez cité à l'instant, de quelqu'un qui a été très important dans votre vie, comme parolier en particulier, comme ami, c'est Jean-Michel Beria. Parce qu'on va écouter à tous ceux qu'on aime, justement, une de
Oui, Jean-Michel Beria, c'est une plume, c'est une écriture. C'est lui qui a écrit « Je t'aime à l'italienne », mais il a écrit des chansons magnifiques qui sont sur les albums. Il faut dire « Je t'aime à tous ceux qu'on aime ».
Ouais.
En fait, c'est son testament. Il m'appelait tous les jours en me disant « Je t'aime ».
Ah ouais ?
Oui, parce que pour lui, il savait la maladie qu'il avait et il avait envie de me dire « Je t'aime » à chaque fois. Et je lui disais « Moi aussi je t'aime, Jean-Mi. »« Oui, mais moi je t'aime, tu peux pas savoir. Je t'aime très fort. » Et donc en fait, dans « Il faut dire « Je t'aime » à tous ceux qu'on aime », j'ai compris qu'il écrivait. Sans que je sache qu'il était vraiment très malade, qu'il écrivait en fait son testament.
Et une chanson qui a été très populaire aussi ensuite quand elle est sortie.
Elle est le numéro un dans les vues encore. Elle approche les 20 millions de vues, tu vois.
Sur YouTube.
Sur YouTube, oui, c'est incroyable. Et les gens dans les spectacles sont debout, ils adorent cette chanson parce que ça les remue. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, quoi.
Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un désamour, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Quand je pense à ma mère que j'aurais dû aimer comme une prière, et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Simple geste et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera.
Frédéric François, qui est mon invité ce matin, avec encore ce tube immense. C'est assez récent, hein, 2017, c'est votre
avant-dernier disque. Oui, c'est assez récent.
Mais j'ai pas fait le compte, hein, parce qu'il y en a trop, mais il y a combien de fois « Je t'aime » dans les paroles de vos chansons?
À mon avis, au moins une fois
dans
par
chaque
chanson.
Sans négliger le nombre de chansons qui elles-mêmes s'appellent « Je t'aime » ou parlent du cœur ou utilisent le mot « amour », c'est un thème unique presque.
L'amour est l'émotion la plus forte chez l'être humain. Ne jamais l'oublier. On en a tous besoin.
C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, votre vie assez extraordinaire, je dois dire, l'illustre parfaitement, cher Frédéric François. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur France Musique.
C'est moi qui vous remercie.
On va se quitter avec à nouveau votre nouveau disque, sachant que votre ami Jean-Michel Berrière d'ailleurs a disparu. Là, c'est votre autre grand ami parolier qui a écrit les chansons.
Oui, Frédéric Zetoun. Voilà, je travaille avec lui depuis 2 décennies. Et voilà, comme on dit, c'est du miel. On s'amuse, on fait des chansons, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour que les chansons, les gens se les approprient. Et ça devient les chansons de leur vie qui vont transmettre et qui vont rester dans la mémoire collective.
Voilà, un album enregistré donc sous confinement, dans votre sous-sol.
Oui, vous l'avez retenu, c'est bien.
Et avec un thème alors d'entrée de la première chanson, d'ailleurs, que vous n'aviez pas tellement, je pense, abordé dans toutes ces 50 années de chansons. C'est l'amour entre deux hommes ou entre deux femmes.
Jusqu'à présent, j'avais toujours chanté l'amour individuel. Ouais. Et on s'est dit avec Fred, on va faire une chanson pour tous les amours. Mais vraiment, une chanson sur la tolérance, une chanson d'amour universel où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas de barrières, peu importe la couleur, la religion, tout ce que vous voulez, chacun a le droit d'écouter son cœur et puis de réussir sa vie amoureuse comme il en a envie. Et je pense que c'est dans l'air du temps et il faut avoir cette tolérance parce que c'est très important.
Voilà, et c'est donc le titre de votre
nouvel album. Oui, ça s'appelle La Liberté
album,
d'aimer.
La Liberté d'aimer, de cette première chanson avec laquelle on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Frédéric François.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Femme qui se cache pour s'aimer, partout dans ce monde, en émoi, il y a trop d'amants hors la loi, de mains qui se frôlent sans rien dire, deux hommes tout tremblants de désir, rêvant de quitter leur pays, coupables d'amour.
La liberté d'aimer, c'était Frédéric François et c'est le titre de son tout nouveau CD qui vient de paraître. J'étais très heureux de le recevoir ce matin et vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations sur le site frédéricfrançois.com. Et d'un genre à l'autre, avec ce goût des contrastes qui m'anime, vous le savez, chers auditeurs, eh bien, c'était la superbe arabesque valsante du pianiste et compositeur Misha Levitsky, sous les doigts de notre cher Philippe Cassard.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis comme chaque semaine en ce moment, eh bien c'est l'heure du coup de chapeau à Fernandel, disparu il y a exactement 50 ans. Fernandel, acteur mais aussi merveilleux chanteur, diseur depuis ses premiers enregistrements de comique troupier jusqu'aux opérettes ou aux chansons de cinéma. Et j'aime particulièrement, vous le savez, ses chansons de la fin des années 30 dans des films souvent assez délirants comme Les 5 sous de la Varède, Les Rois du sport, François 1er ou encore plus connu Le Schpoons, Fric Frac, mais aussi Raphaël le Tatoué, un chef-d'œuvre dans lequel Fernandel joue le rôle de deux frères jumeaux, un méchant et un gentil. Et le méchant, eh bien, on va l'entendre tout de suite dans justement cette chanson, composée toujours par Casimir Oberfeld sur des paroles de Jean Mans.
Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi, je trouve que ça fait tartouze. Et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué, je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur d'un vrai. Quand je joue à la belote au petit bistrot du coin, faut pas m'en mettre plein les bottes, car aussitôt je fais du foin. De quoi? Il n'y a pas de pourquoi. Les autres restent quoi? Alors je dis narquois. Je suis un dur, un vrai, un tatoué, je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur d'un vrai. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'envole. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur d'un vrai.
Connaissez-vous le grand Léon, qui a la gueule en accordéon? Pour une arien d'un ouvrier, c'est un costaud, un pur,
un ré.
Gullier, c'est un dur, comme il n'y en a pas. Il est dur du haut jusqu'en bas, sauf quelquefois vers le milieu, où il est juste entre les deux. Il est dur du portefeuille, il est dur même de la feuille. Il bouffe des œufs durs à tous ses repas. C'est un dur, comme il n'y en a pas. Il porte toujours un col dur. Quand il voyage, il prend le dur. Pour ses principes, il n'en sort pas. Le chapeau mou, il dit que ça ne lui va pas. Il préfère les casquettes. C'est un dur, comme il n'y en a pas. Tout ce qui est mou, il n'en veut pas. Caramel mou, il aime pas ça. Le fromage mou, n'en parlons pas. Il est dur, le comprenure. C'est comme ça, c'est sa nature. Il donne même pas du mou à son chat. C'est un dur, comme il n'y en a pas. Oh, parfois, il fait un coup dur. Pour se punir, il se met au pain dur. Au de sa vie, il changera pas. Et c'est au dur, au dur, allez.
Qu'un jour il fuit,
on ira.
C'est un dur, comme il n'y en a pas.
Ce sera dur pour le mettre au pas. Il restera dur jusqu'au trépas. C'est lui qui le dit, mais on le sait pas. En enfer, on peut pas dire que ça sera un dur à cuire. Plus il cuira, plus il durcira. C'est un dur, comme il n'y en a pas.
Et voilà, c'était en prime une autre chanson sur le thème du dur et du tatoué, enregistrée en 1947 sur des paroles de Raymond Vinci et une musique d'Henri Martinet. Il nous reste à écouter pour nous quitter le merveilleux thème et variation du ballet Les Deux Pigeons d'André Messager.
Thank you.
Les deux pigeons d'André Messager par l'Orchestre Royal de Covent Garden sous la direction de Charles Maqueras. Et ainsi s'achève donc Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil et YouTube Diego Aclopès, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr samedi prochain, j'aurai la joie d'accueillir la chanteuse Francesca Solville. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.